Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat après la volte-face de l'opposition en République démocratique du Congo. L'opposition qui était parvenue à s'entendre dimanche sur une candidature unique en vue de l'élection présidentielle du mois prochain en désignant Martin Fayoulou. Seulement voilà, cette unité n'aura duré que 24 heures. Dès hier soir, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui sont tout de même deux poids lourds de l'opposition, ont annoncé ne plus respecter cet accord. Ils retirent donc leur soutien aux candidats désignés. Tous les deux invoquent la pression de leurs partisans, la pression de la base, qui n'a finalement pas accepté le choix de Martin Fayoulou. Alors, êtes-vous surpris par ce scénario? Vous êtes déjà des centaines à souhaiter prendre la parole sur l'antenne de RFI. Continuez à nous rejoindre ici à Paris, 33 9 693 693 70, et je lirai évidemment quelques-uns des commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Mamadou nous appelle de Turin. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à vos fidèles auditeurs.
Merci de nous écouter en Italie. Vous avez, vous, des questions sur ce décret-loi très controversé dans votre pays concernant l'immigration?
Bien sûr Juan. Le Sénat italien vient de donner son feu vert sur la loi anti-migrants voulue par Matteo Salvini. Mmh. Quelles sont les nouvelles conditions d'accueil des immigrants? Quel sort sera réservé à ceux ne répondant pas à toutes ces conditions, mais restant tout de même dans le pays?
Alors, c'est vrai que le gouvernement italien a obtenu, il y a quelques jours, la confiance du Sénat sur ce texte qui est très controversé. D'ailleurs, samedi, des milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Rome pour protester contre ce décret. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour Juan et bonjour cher Mamadou, et bien entendu bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes la correspondante de RFI dans la capitale italienne. Avant de répondre à notre auditeur, vous souhaitiez nous donner quelques chiffres pour planter le décor.
Oui, en fait, on constate que l'Italie d'aujourd'hui n'est pas un pays envahi par les migrants. Suite aux mesures qui ont été prises par l'ancien ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, pour contrôler les ONG en Méditerranée et puis faire surveiller les côtes libyennes, eh bien, le nombre de migrants arrivés dans le sud de l'Italie est passé de 164 822 en 2016 à 114 552 en 2017. Pour 2018, on dénombre moins de 23 000 arrivés depuis le 1er janvier. Alors, on observe une diminution encore plus nette des débarquements depuis que le mouvement 5 étoiles et la Ligue sont au pouvoir. Matteo Salvini, chef de ce parti très droitier et ministre de l'Intérieur, ayant fermé les portes aux ONG dès le mois de juin.
Oui, alors venons-en aux questions donc de Mamadou. C'est vrai qu'avec ce nouveau décret sur l'immigration et la sécurité, c'est tout le système d'accueil des migrants qui change. On va survoler les points les plus importants de ce décret, à commencer par le permis de séjour dit humanitaire. Il est tout simplement supprimé.
Oui, il était accordé aux migrants qui ne fuient pas des guerres ou des conflits, mais qui proviennent de pays frappés par des calamités naturelles ou qui ont vécu des situations personnelles traumatisantes. En 2017, sur 80 000 demandes d'asile acceptées, 25% l'ont été pour des motifs humanitaires. Eh bien, désormais, cette forme de protection ne sera accordée qu'exceptionnellement. Par exemple, à des migrants gravement malades ou provenant de pays dévastés par des catastrophes naturelles. La durée du permis pourra varier de 6 mois à 1 an. Dans certains cas, elle sera prolongée d'un an.
Et que va-t-il se passer pour les migrants déboutés de leur demande d'asile ?
Eh bien là encore, rien de joyeux. La durée de rétention dans les centres pour le rapatriement passe de 3 à 6 mois. Alors théoriquement, c'est pour faciliter les procédures d'identification qui sont longues et d'expulsion vers les pays d'origine. Mais quand même, il faut le dire, au stade actuel, il n'y a que deux accords bilatéraux qui fonctionnent réellement, ceux avec la Tunisie et le Nigeria.
Alors, pour les demandeurs d'asile en attente de l'instruction de leur dossier et pour les réfugiés, est-ce qu'il va y avoir des changements ?
Ah oui, Là, oui, 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 et beaucoup. Le système d'accueil et de protection à petite échelle, par exemple dans un village, sera limité aux mineurs non accompagnés et aux adultes ayant un titre de protection internationale. Les autres, soit actuellement environ 120 000 personnes, seront, on peut le dire, parquées dans de grands centres avec des services réduits au strict minimum. En outre, le financement de l'accueil passe de 30 euros par jour et par personne à une vingtaine d'euros, ce qui signifie que les projets d'intégration risquent carrément de disparaître. Avec l'abolition des permis humanitaires, c'est l'un des points de la réforme les plus critiqués par les ONG et le Conseil italien pour les réfugiés. Car l'accueil à petite échelle est au cœur d'une bonne intégration et l'éducation et la formation professionnelle sont au cœur de l'avenir d'un réfugié dans son pays d'accueil.
Oui, vous parlez des inquiétudes du Conseil italien pour les réfugiés. Le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, s'est également inquiété ces derniers jours à travers un communiqué. En quelques mots, Anne Lenir, dans ce contexte de tolérance zéro en Italie en matière d'immigration, j'imagine que les recours seront désormais beaucoup plus difficiles.
Oui, Juan, ils seront vraiment très 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 complexes et il faut savoir notamment que les frais de justice pour les recours qui étaient jusqu'à présent à charge de l'État italien devront désormais être payés par les migrants dont le recours est jugé inadmissible. Alors, un dernier mot, le décret doit maintenant être soumis à l'examen de la Chambre des députés avant d'obtenir un feu vert définitif, et on espère des changements.
Oui, en tout cas les députés doivent approuver ce texte d'ici la fin de ce mois. Mamadou, a-t-on répondu à vos questions ?
Super bien, si.
Super bien. Bah, merci à Anne Lenir, surtout notre correspondante à Rome. Bonne journée à tous les deux. Il est 9h17 à Paris, 33 9 693 693 70. Olivier nous a contacté d'Abidjan. Bonjour Olivier.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions ?
Oui, on apprend dans la presse que quelques 4000 migrants provenant d'Amérique du Sud sont en route vers les États-Unis. Et à cet effet, le président Donald Trump a annoncé le déploiement de 5000 soldats américains à la frontière qui pourraient éventuellement user de violence, selon lui, envers les migrants s'il le fallait, stopper la progression. Alors, la question est, est-ce que l'armée américaine peut vraiment user de violence, voire même tirer sur ces migrants ?
Bonne question. Et c'est Jean-Éric Branat qui va vous répondre. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Olivier.
Maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, spécialiste des États-Unis. Le président Trump dénonce depuis maintenant une quinzaine de jours, trois semaines, il dénonce une invasion. Il a mobilisé des milliers de militaires pour stopper tous ces migrants qui avancent vers le nord du Mexique, direction la frontière avec les États-Unis. D'abord, Jean-Éric Branat, avez-vous une idée déjà du nombre de soldats déployés le long de la frontière pour empêcher ces migrants d'entrer aux États-Unis ?
Oui, parce qu'Olivier parlait de 5000 soldats, et c'est vrai que c'est un chiffre qui a été avancé. D'abord 800, puis 5200. Aujourd'hui, on en est à 15 000. Ce sont les dernières annonces. Alors, ils ont commencé à se déployer déjà le long de la frontière. C'est vrai qu'environ 3000 d'entre eux sont déjà en place. Mais la vraie question qui se pose quand on demande ce que vont faire ces soldats, c'est justement jusqu'où peuvent-ils aller. Et on sait qu'aux États-Unis, les soldats, l'armée américaine n'a pas le droit de faire des opérations de police sur le territoire. Ils servent en réalité uniquement à l'étranger pour défendre le pays. Ça, c'est une loi qui s'appelle le Posse Comitatus, qui date déjà de la fin du 19e siècle et qui a été votée pour éviter les excès qu'on avait vus après la guerre civile, quand effectivement l'armée est intervenue dans le sud pour faire des opérations de police contre d'autres Américains, ce qui avait beaucoup choqué les Américains du sud. Alors, de cela, il découle que s'ils ne peuvent pas faire d'opérations de police, ils ne peuvent pas arrêter les gens et ils ne peuvent donc pas non plus tirer sur ceux qui arrivent, puisque les États-Unis ne sont pas en danger. Ces gens-là sont des réfugiés et ils vont donc faire appel aux lois américaines en s'appuyant derrière les accords internationaux qu'a signé les États-Unis.
Mais Jean-Éric Branat, Donald Trump, lui, parle de légitime défense. Si les migrants veulent lancer des pierres sur notre armée répliquera. Donc, effectivement, s'ils reçoivent des pierres, l'armée est attaquée.
Alors c'est tout l'art subtil de la politique où on joue sur les mots. Il est possible que l'on voit des soldats tirer, mais ce ne seront pas les soldats de l'armée régulière américaine, mais des soldats de l'armée des États, qu'on appelle la garde nationale. Or, si on se trouve au Texas, au Nouveau-Mexique ou en Californie, il y a effectivement des soldats qui servent au maintien de l'ordre et qu'on appelle donc la garde nationale. L'armée américaine, les GIs, la Navy, viennent en support de cette armée. Ils sont donc en back-office, si je peux dire, derrière, en logistique, plutôt, pour utiliser un mot français, ce sera mieux. Et ils ne servent effectivement qu'à aider ces soldats pour organiser les choses sur place, par exemple, déblayer les routes, faire de la place si jamais il y a des manifestations, ce genre de choses, du transport de personnes, par exemple. Mais eux ne vont pas tirer. Ce seraient les gardes frontières, éventuellement, ou la garde nationale, qui, eux, sont en charge du maintien de l'ordre.
Voilà qui est clair. Olivier, vous aviez une autre question ?
Oui, effectivement. Alors, on sait que le président Donald Trump aussi, il a accusé les autorités sud-américaines, notamment celles du Guatemala et de Honduras, de faire très peu pour stopper ce problème-là, pour régler ce problème-là. Alors, on sait aussi que le président du Guatemala s'est rendu même aux Honduras pour discuter de ces questions-là. Alors, quel a été le résultat de cette rencontre ?
Ah, bonne question. Savez-vous, Jean-Éric Brana, ce que se sont dit les présidents du Honduras et du Guatemala, pointés du doigt par Donald Trump, hein, qui les accuse de ne rien faire pour empêcher ces migrants de quitter leur pays?
Oui, là aussi, c'est forcément très injuste. Hernandez et Morales se sont rencontrés à de nombreuses reprises, et encore il y a une semaine. Le plan qui est annoncé, qui semble bien dérisoire face à la vague migratoire qui sort de ces pays, c'est de travailler sur les causes de la migration, donc d'abord de s'attaquer aux gangs, en criminalisant encore davantage, si on le peut, ces filières et ces gens qui poussent les gens à la migration, et surtout d'augmenter les salaires, ou plutôt de proposer déjà du travail à beaucoup d'entre eux, notamment en relançant les infrastructures, alors que ce soit les routes, les hôpitaux, les écoles. Tout est à faire en réalité dans ces pays. Il y a besoin d'une aide internationale très importante. D'ailleurs, l'aide américaine est dirigée dans ce but-là. Aide américaine qui, rappelons-le, a été réduite ces derniers mois par Donald Trump. Et donc là, on voit que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque, en effet, si on coupe les aides, cela pousse encore plus de gens sur les routes et Donald Trump sera donc encore plus en colère, alors qu'il est un peu à l'origine de ce problème-là.
L'analyse en direct sur RFI de Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Je rappelle d'ailleurs votre dernier ouvrage consacré aux États-Unis, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, publié aux éditions Priva. Merci à vous, à bientôt Jean-Éric Brana. Merci Olivier de votre fidélité. Bonne journée à Abidjan, où il est 8h23. Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, notre débat sur la République démocratique du Congo après la décision spectaculaire hier soir de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de ne plus soutenir Martin Fayulu, le candidat unique de l'opposition, pourtant désigné 24 heures plus tôt à Genève. Que vous inspire ce coup de théâtre? 33 9 693 693 70, coup de théâtre qui suscite évidemment beaucoup de réactions au standard, mais aussi des questions. Khalil Oulaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Sénégal, vous nous appelez de Thiès exactement, nous vous écoutons.
10 km de Dakar.
Très bien, on vous écoute.
Bonjour, j'ai appris par les ondes de RFI que Martin Fayulu était nommé candidat unique aux élections présidentielle en République démocratique du Congo. Premièrement, je voudrais savoir comment avait-il pu s'imposer devant des ténors comme Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe.
On va déjà répondre à cette première question, si vous le permettez, avec Sonia Rollet, qui était l'envoyée spéciale de RFI à Genève. Bonjour Sonia.
Bonjour.
C'est vrai que le choix de Martin Fayulu a surpris plus d'un auditeur congolais, mais aussi auditeur de RFI qui n'avait pratiquement jamais entendu le nom de Martin Fayulu. C'est donc lui qui avait été désigné dimanche pour représenter l'opposition lors de l'élection présidentielle du 23 décembre. Comment s'est porté le choix sur Martin Fayulu? Vous qui étiez sur place, que s'est-il passé? Racontez-nous.
Mais en fait, tout simplement, les 7 leaders de l'opposition avaient choisi pour éviter les divisions, pour éviter les marchandages, pour éviter que ça s'éternise, ils avaient choisi de tout simplement trouver un système d'élection, de vote entre eux, pour que bah, le résultat finalement fasse l'objet d'une élection. Voilà, c'était vraiment un choix qu'ils avaient fait. Hein. Alors, dans la première configuration, pour éviter qu'on dise que les trois exclus, puisqu'il y a trois exclus à la présidentielle parmi ces sept leaders de l'opposition, vous le savez, Moïse Katoumi n'a pas pu rentrer pour déposer sa candidature. Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito avaient été invalidés par la CENI comme par la Cour constitutionnelle. Donc pour éviter qu'on dise que ces trois-là manipulent le résultat, l'idée avait été que ben, les quatre candidats qui étaient encore en lice pour cette présidentielle, parmi lesquels Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Freddy Matungulu, soient les seuls à voter au premier tour et décident entre eux qui devait être éliminé de cette élection. Donc chacun avait deux voix pour pouvoir voter. Évidemment, la première voix, ils se la sont donnée. Puis après, ils avaient un choix à faire sur quel est l'autre candidat pour lequel vous auriez voté. Et il y a eu une stratégie qui a été mise en place par tous les candidats. Il se trouve que les deux favoris de cette élection, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont choisi de ne pas voter l'un pour l'autre, ce qui était pourtant le plus logique, c'est-à-dire de se renforcer au premier tour pour être sûr de passer et puis remettre la compétition au deuxième tour, ce qui est assez classique. Donc ils ont choisi de ne pas voter l'un pour l'autre, ils ont choisi de voter pour les petits candidats. Et les petits candidats, eux, en étudiant le système d'élection, se sont rendus compte que la seule possibilité qu'ils avaient pour avoir une chance de passer au deuxième tour était de voter l'un pour l'autre. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en refusant en fait de voter l'un pour l'autre, les deux rivaux se sont éliminés au premier tour. Donc évidemment, ça a été quand même un peu la surprise, y compris pour les sept leaders de l'opposition qui, eux, étaient prêts à donner l'investiture à la limite aux favoris. Mais quand ils se sont retrouvés, la question s'est posée de savoir quoi faire pour le deuxième tour. Est-ce qu'il fallait revenir sur ces résultats? Ils se sont dit, ben non, et y compris Félix Tshisekedi, en particulier d'ailleurs Félix Tshisekedi avait dit à l'époque, ben non, il ne faut pas qu'on change les règles en cours de route. Pour qui est-ce qu'on va passer si on décide de remettre en cause ce résultat? Donc ils ont décidé d'aller au deuxième tour quand même. Le deuxième tour, c'était avec les sept leaders de l'opposition. Là, il y a eu une répartition, un vote à la majorité. Le vote à la majorité est allé en faveur de Martin Fayulu et pas de Freddy Matungulu. Et donc voilà, ils avaient décidé sur le coup de respecter le résultat de cette élection et donc de soutenir la candidature de Martin Fayulu.
Sonia Rollet, dans les coulisses du vote de l'opposition congolaise, c'était passionnant de vous entendre, Sonia. Alors, Khalil Oulaye, vous aviez une autre question. On a encore beaucoup d'auditeurs qui souhaitaient poser des questions, mais on aura l'occasion d'y revenir évidemment demain et le reste de la semaine. Khalil Oulaye.
Oui.
On vous écoute.
Je voudrais savoir quel est le parcours politique de ce Martin Fayulu?
Alors, parcours politique, effectivement, puisqu'il est peu connu. Sonia Rollet, en 1 minute 30, puisqu'on est obligé de rendre l'antenne pour le journal.
Alors, tout simplement, Martin Fayulu, il a été directeur Afrique dans certains pays africains d'ExxonMobil, donc la compagnie pétrolière. Donc, c'est quelqu'un qui est diplômé et qui a une longue carrière politique puisque il était déjà dans l'opposition à l'époque de Mobutu. Récemment, en fait, il a été l'un des tenants de la lutte contre le troisième mandat de Joseph Kabila puisqu'il a été lui de toutes les manifestations depuis 2015. Il a notamment été blessé en septembre 2016. Il a fait aussi plusieurs séjours en prison. Donc c'est vrai qu'il est peu connu à l'extérieur puisque sa formation est peu connue. C'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup agi, disons, à Kinshasa. On l'a beaucoup vu à Kinshasa dans les meetings politiques et les manifestations. Et donc voilà quoi, c'est vraiment un parcours de terrain, assez proche aussi de la société civile. Il était l'un des ténors, en fait, l'un des tenants de la transition sans Kabila. C'était l'un de ceux qui prônaient et qui ont passé leur temps à prôner qu'il fallait une transition sans Kabila. Et c'est pour ça qu'il est considéré comme un extrémiste par le régime.
Oui, il incarne en quelque sorte l'aile dure de l'opposition qui n'entend rien céder, notamment sur la machine à voter, sur la liste électorale, quitte même à boycotter, hein, effectivement. Sonia Rollet, merci de toutes ces précisions. On aura l'occasion dans 10 minutes, juste après le journal, de débattre avec les auditeurs de ce coup de théâtre hier à Kinshasa. Après la décision donc de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de ne plus soutenir le candidat commun de l'opposition congolaise. Restez à l'écoute des RFI.